tout d'abord, je vais remercier effectivement tous les gens de l'Université de Bordeaux qui m'ont invité à l'accueil. Je vais effectivement vous parler qualité en sciences souples. Je vais orienter ma présentation sur les outils. Pourquoi les outils? Si demain vous faites intervenir un consultant qualité dans vos laboratoires respectifs, il y a une probabilité non négligeable que cette personne-là arrive avec le juron qui est la bible des qualiticiens. Alors s'il y a des qualiticiens dans la salle, je pense qu'ils voient de quoi ils parlent. C'est un pavé qui est à peu près gros comme ça. Ouais, qui fait bien qui doit bien faire 2500 pages all in English évidemment. Et qui vous raconte l'histoire de la qualité de A à Z. Alors ce truc-là, si vous voulez le mettre en place dans vos labos, à mon avis, vous allez vous heurter rapidement à un mur. La qualité, en tout cas, c'est comme ça que je la vois, et depuis que je travaille dessus, c'est comme ça que je travaille avec les laboratoires dans lesquels j'ai pu œuvrer. Pour moi, c'est avant tout des outils qui sont au service de la recherche et au service du pilotage du laboratoire. Et en tout cas, si on l'amène comme ça, le chercheur va rapidement voir son intérêt et le directeur de laboratoire aussi. Donc aujourd'hui, nous, ça, vous allez voir que ça fait un petit moment qu'on est en démarche qualité à Pacte. On a mis en place quelques outils. Je vous ferai une démonstration. Alors je vais vous faire une présentation en trois actes, on va dire. Premier acte, je vais vous présenter un petit peu le laboratoire Pacte et puis qu'est-ce qu'on fait en termes de démarche qualité dans ce laboratoire-là. Je vais faire un petit point sur les différences et les problématiques communes entre les sciences souples et les sciences dures. Je vais vous faire en deuxième temps une présentation concrète des outils qu'on utilise quand on parle espace collaboratif de travail, processus, à quoi ça ressemble. Parce que je pense que ça va vous parler. Et puis j'ai bien envie de laisser un temps non négligeable au débat pour répondre à vos questions et puis à vos interrogations, enfin qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Alors je pense que le temps du repas sera aussi un temps pour échanger, mais je pense que ça peut être intéressant d'échanger dès maintenant. Alors si je présente le laboratoire Pacte, voilà à quoi ça ressemble. Le laboratoire Pacte, c'est 300 chercheurs permanents. C'est 6 sites répartis sur la région grenobloise et l'Ardèche. C'est une trentaine d'ITA, idem répartis sur 6 sites. Faire bosser tout ce petit monde ensemble, c'est loin d'être évident. Je vous présente ici donc l'organisation. Alors vous voyez que c'est un organigramme qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut trouver assez régulièrement, un organigramme hiérarchique, mais un organigramme qui est centré sur notre métier. Notre métier, c'est la recherche. Votre métier, c'est la recherche. Donc, les groupes de travail, les pilotes de groupes de travail, les 4 axes principaux de recherche qui sont reconstruction de la démocratie, science de l'innovation, dynamique métropolitaine territoriale, science sociale de l'environnement. Pacte est issu de la fusion de 6 laboratoires. L'objectif de cette fusion, qui a eu lieu, les premières ont lieu en 2000, a été de faire travailler les gens en transverse, ce qui est loin d'être évident, c'est-à-dire réunir dans une même équipe un géomorphologue, un politologue, un psychologue et un historien, et puis faire travailler tout ce petit monde ensemble autour de projets. Donc on arrive là, ça c'est la présentation de l'organigramme qui a été défini dans le prochain quadriennal. Vous voyez qu'ici donc j'ai une équipe de direction avec un directeur, 2 directeurs adjoints, un par grand site administratif, on va dire, département politique organisation, département territoire, qui sont ici représentés pour les services d'accompagnement à la recherche. Une secrétaire générale qui est un petit peu le pivot de toute cette structure. Des services d'appui à la recherche, avec un secrétaire de direction, secrétaire de recherche. Bon, ça, c'est une structure qu'on retrouve un peu partout dans les laboratoires. Et ici, une cellule méthode projet qui arrive véritablement en appui au projet de recherche. Cette cellule, elle comprend un groupe qui s'appelle Ariane, qui est un groupe composé de 4 ingénieurs méthode, un groupe qualité et un groupe ingénierie de projet. On travaille main dans la main. Tous les 6 avec la direction, avec le secrétariat de direction, sur les différents projets qui sont là. On a également 2 ERT qui sont dans notre UMR. PACT, c'est, comme je vous l'ai dit, plus de 300 chercheurs répartis sur 6 sites. C'est une mobilité affirmée, des gens qui sont partout dans le monde en permanence. C'est des problématiques de pilotage fortes. Une carte de compétences qui est assez hétérogène, hein, avec quatre grands pôles, sciences politiques, urbanisme, sociaux et géographie, et puis au milieu des compétences diverses et variées, que ce soit en travail, organisation, en relations internationales, en Europe, en méthodo également. Je vous ai fait un petit CV rapide. Donc moi, Thierry Bontemps, je suis responsable du système d'information et chargé de la démarche qualité. Responsable du système d'information, c'est-à-dire que mon boulot, c'est d'aligner la stratégie et les outils. C'est d'être conseil et force de proposition auprès de la direction. En termes de chargé de qualité dans le laboratoire, c'est de l'appui au projet, c'est de l'appui à la direction, de l'appui à la recherche essentiellement. Donc moi, je me mets au service des chercheurs. Quand ils ont besoin sur un projet de travailler sur un appui qualité, je mets à leur service et puis on travaille ensemble. J'ai pas forcément de ligne de conduite, on va dire, par rapport à ça. C'est un petit peu par rapport à leurs besoins, par rapport à la spécificité du projet de recherche qu'on met des outils en œuvre. C'est pas tout le temps les mêmes, c'est pas tout le temps dans le même sens, mais on va quand même toujours dans la même direction. Je suis également professeur affilié à l'ESC Grenoble, ce qui me donne quand même une vision de ce qui peut se passer en entreprise. Je suis professeur de système d'information, de management stratégique, développement d'entreprise, de gestion de conflits. Je fais pas mal de choses. Et cette vision-là, cette activité me donne vraiment, me met un pied dans l'entreprise. Je suis pas mal d'étudiants qui sont dans des entreprises. Ça me permet d'avoir une vision de ce qui se fait, notamment en termes de qualité, dans l'industrie. Dans les entreprises, et c'est des outils, c'est là-dedans que je vais pêcher des idées pour mettre en application dans nos laboratoires. Alors de formation, j'ai une formation complètement transverse, puisque j'ai un bac plus 2 en informatique, un bac plus 5 en gestion, un bac plus 6 en management stratégique des organisations. Donc je suis vraiment très transverse, hein, je suis spécialiste de rien du tout en fait, mais j'arrive à intervenir un peu partout, puis j'ai une vraie culture SHS. Et avant de travailler à PAC, j'ai passé 8 ans en délégation régionale où je m'occupais du système d'information, de la conduite du changement et de la qualité également, puisque j'étais responsable qualité de l'ADR de Grenoble. Donc on a été, je crois, la première délégation du CNRS à mettre la qualité à l'ordre du jour avec Véronique de Bishop en 2000. La qualité à PAC, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui commence à dater un peu. Première fusion de plusieurs unités CNRS, on a fusionné donc le CERAT, le CDSP, le Civil, Théo, Sermozem, IUG, Christo. J'ai failli vous mettre que ça faisait la tête à Toto, mais non, ça fait pacte. C'est, je sais pas si certains d'entre vous sont rentrés dans une démarche de fusion de laboratoire. Si vous avez fusionné une unité, deux unités, trois unités, ça commence à devenir complexe. Quand on fusionne 6 unités, c'est compliqué, c'est plus que complexe. Donc on est obligé de s'imposer des méthodologies de pilotage et des méthodes qui sont utilisées par ailleurs dans les entreprises pour pouvoir tous travailler ensemble. Alors 2000, première démarche qualité. Donc quand le CERAT, le CIDSP, Civil et Théo ont fusionné, l'objectif ça a été de faire travailler tout ce petit monde ensemble et puis d'essayer de trouver une identité. Trouver une identité, c'est trouver une méthode commune de travail, à défaut de trouver une image commune. Donc pour mettre ça en place, en fait, on a été beaucoup appuyé par la formation continue de l'ADR du CNRS, qui a proposé à plusieurs laboratoires, on était 5 laboratoires plus la délégation régionale, à rentrer dans une démarche qualité. Et un des premiers travaux qu'on a fait, c'est de mettre en place une base documentaire, la base Impact, qui permet de recenser les différents documents qui sont à l'intérieur du laboratoire et qui sont utiles à tous. C'est là-dessus qu'on va retrouver tous les comptes rendus de réunion. C'est là-dessus qu'on va retrouver l'ensemble des documents opérationnels, les feuilles de mission, les remboursements de frais, les cumuls d'emplois, vraiment tout ce qui est utile aujourd'hui au chercheur dans son travail quotidien. Deuxième point mis en place dès 2000 dans la première démarche, ça a été la méthodologie commune aux différentes équipes administratives. Comment on met en place les méthodes administratives pour que tout le monde travaille ensemble de la même façon. C'est un début d'écriture de processus. On verra à quoi ça correspond les processus tout à l'heure. Mais là, en 2000, on a commencé à mettre en place les processus. Pour être franc, c'est une démarche qui est difficile. C'est long, c'est difficile. Vous voyez qu'on a commencé en 2000. Sur la fin de mon axe de temps, on est en 2014, 14 ans. On est aujourd'hui en 2010. C'est 10 ans. 10 ans, c'est long et c'est court à la fois. Quand je suis arrivé au laboratoire en 2006, le laboratoire s'engageait sur son deuxième quadriennal 2007-2010. Avec comme objectif pérenniser, améliorer l'organisation du laboratoire et organiser la production scientifique pour favoriser les convergences des activités des entreprises collectives avec comme grande orientation l'internationalisation, l'interface et la professionnalisation. Quand je suis arrivé, donc la démarche qualité au niveau administratif était arrivée un petit peu à boucler sur elle-même, on va dire. Et du coup, j'ai recentré moi la démarche qualité sur la recherche, puisque le cœur de métier du laboratoire, il ne faut pas l'oublier, c'est la recherche, c'est les chercheurs. Comment j'ai recentré la démarche qualité? En mettant en place des outils qui ne sont pas étiquetés qualité. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai mis en place des processus, j'ai mis en place des espaces collaboratifs de travail qui répondent à des problématiques qualité, mais qui ne sont pas pour le chercheur un outil de pilotage de la qualité, qui pour le chercheur sont un outil de travail, sont un outil de partage d'informations, sont un outil de travail collaboratif. Et c'est pas un outil qualité, encore une fois. Quand on dit au chercheur, une fois que son espace fonctionne bien, une fois qu'il arrive à la fin du projet et qu'il a vu le bilan du projet, on lui dit, bah écoute, tu sais que dans ton rapport pour l'ANR machin, ou pour l'ADEME, ou l'organisme commandeur, tu peux mettre, je te fais deux pages sur la qualité si tu veux. Ah bon, on a fait de la qualité dans le projet? Bah oui, on a fait de la qualité, oui, on a fait de la traçabilité, on a fait on a de l'unicité d'information, on a de la sécurisation, donc oui, on a fait de la qualité, bien sûr. Donc là, le chercheur s'aperçoit que oui, on est dans une démarche qualité, et sans le savoir, il a fait de la qualité. Le paroxysme, c'est quand le directeur du labo a besoin pour les bilans quadriennaux d'avoir une vision globale de l'ensemble des projets du labo, que les trois quarts des chercheurs pilotes de groupes de travail sont sur un séminaire au Chili, à Santiago, parce que c'est les journées mondiales de la science politique, n'est-ce pas? Et que là, on ouvre le truc et on dit, bah, il y a dix chercheurs qui n'ont pas répondu au bilan. Et que sur les 10, il y en a 5 qui ont un espace de travail et 5 qui en ont pas. Et que je prends la parole et que je dis à mon directeur, bah écoute, si tu veux, moi je peux te faire un bilan de lui. Dans une demi-heure, t'as les 5 bilans. Par contre, les 5 autres, je sais pas du tout où ils en sont. Ils sont pas dans une démarche, donc ils ont pas d'espace collaboratif. Là, la direction prend conscience que c'est très intéressant. Et effectivement, au bout d'une demi-heure, on avait 10 lignes par projet. Sur les projets qui étaient dans cette démarche-là. Ceux qui ne l'étaient pas, ben on a attendu qu'ils rentrent du Chili et on était légèrement en retard. Troisième étape, pacte 3, 2010-2014. Et ça, c'est un scoop parce que même les gens du laboratoire ne le savent pas puisque le conseil d'unité a lieu incessamment sous peu. On va basculer en pilotage mode projet. Et là, on va être vraiment dans... tous les projets vont rentrer dans ce cadre-là. Pour qu'on ait une démarche qualité sur l'ensemble des projets du laboratoire. Petit topo sur les sciences souples et les sciences dures. Alors on a des différences notables. Je sais qu'il y a des gens des sciences dures, il y a notamment des biologistes qui vont me lancer des tomates si je dis ça, mais les sciences dures, ça a une image de recherche. Alors c'est une image, hein, je pèse mes mots, et c'est une recherche facile à mettre en fiche. Tapez pas. Quand je dis ça. Quand je dis ça, c'est évidemment un gros, gros raccourci, mais c'est pour dire que vous avez en biologie, vous avez en chimie, vous avez en physique des process qui sont beaucoup plus répétitifs. Si je crée un protocole où j'ajoute 3 millilitres de substance bleue, 3 millilitres de substance jaune et que j'obtiens 6 millilitres de substance verte, a priori ça peut s'écrire et ça peut se reproduire à l'infini. En sciences humaines et sociales, quand on travaille sur des résultats d'entretien, si le 10 septembre 2001 je vous demande qu'est-ce que vous pensez de monsieur Ben Laden, a priori, il n'y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire. Si le 12 septembre, je vous pose la même question, je suis persuadé que votre réponse est totalement différente. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'en sciences sociales, on a un matériau de recherche qui est pas fixe par rapport aux sciences dures, où le matériau de recherche, ben, a priori, il bouge pas, quoi. Enfin, c'est un gros, gros raccourci, hein, c'est deux points sur un transparent. Néanmoins, on a des points communs qui sont non négligeables. Unicité de l'information. Pour vous comme pour nous, que ce soit en sciences souples ou en sciences dures, l'information, elle doit être unique pour pouvoir être exploitée. Je pense que vous fonctionnez tous avec le mail. Donc quand vous écrivez un petit bout d'article, un petit bout de texte, que vous l'envoyez à vos pairs pour discuter, le document part sur 10 messageries, il est modifié 10 fois, arrive 10 versions différentes qu'il faut après remettre en place. Qui a la dernière version ? Qui l'a modifié, qui a fait quelle modification dans le document, ça a priori vous en avez aucune idée. Sur un espace collaboratif de travail, vous verrez qu'on a un système de versionning qui nous permet de remonter sur les différentes versions, et ça c'est extrêmement intéressant. On a aussi comme point commun la reproductibilité. Il faut un moment pouvoir reproduire les expériences qu'on fait, qu'on soit sur un matériel fixe ou mouvant. Il faut que quelqu'un puisse reproduire ce qu'on a fait. Donc on a aussi la notion de traçabilité. Traçabilité de la recherche. On a la notion de partage et de sécurisation de l'information. On travaille de plus en plus en équipe, hein, que ce soit en sciences dures ou en sciences souples. Aujourd'hui, le chercheur qui travaille dans son coin, je ne crois pas qu'il ait beaucoup d'avenir. Par contre, l'équipe de recherche, ça va être la norme, quel que soit le domaine de recherche. La notion de stockage de résultats, elle est importante. Vous avez tous des chercheurs, vous avez tous des thésards qui sont amenés à bouger dans l'avenir, qui sont amenés à partir du laboratoire pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Un thésard, quand il a bossé 5 ans dans le laboratoire, c'est intéressant de garder son matériel de recherche, c'est intéressant de savoir où il en était de ses recherches, c'est intéressant de savoir ce qu'il avait à dire. Donc, stockage des résultats, c'est important. Et puis enfin, la notion de sécurisation, alors elle est redondante avec celle de partage, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'ai une petite coquille. Sécurisation, c'est très important, le CNRS a engagé un plan de sécurisation de son système d'information, hein, la PSSI, je pense que vous en avez entendu parler. PSSI, c'est la mise en place d'outils de contrôle de la sécurité du système d'information. C'est derrière deux normes ISO, l'ISO 20000 pour le management des systèmes d'information et l'ISO 27001 pour la sécurité du système d'information. Ça aussi, c'est un point dont on peut parler. Je suis CRSSI pour le presse grenoblois, représentant l'IEP. On travaille main dans la main avec le CRSSI du CNRS notamment, sur la mise en place d'outils de formation, etc., qui vont dans le sens de la sécurisation du système d'information. Je vais vous faire un petit point, comme je vous l'ai dit, donc sur les outils en place. Je regarde un peu ma montre pour voir si je suis dans le timing. Les outils en place, ou presque, dans le laboratoire, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Une des notions fondamentales de la qualité, c'est l'amélioration continue, le PDCA. On est aussi dans cette amélioration continue, donc on n'a jamais fini la qualité. Les outils en place, c'est Impact, la base documentaire mise à jour par tous les personnels autorisés, accessible par tous et de partout. L'objectif, c'est de partager et de rendre accessible l'information. Des outils de description de processus et la méthodologie qui va avec, c'est écrire ce qu'on en fait pour être capable de reproduire et de standardiser. Aujourd'hui, on met ça en place sur des méthodes. Sur des méthodes, des méthodes administratives, par exemple pilotage d'enquête, ou des méthodes de recherche, Comment on part de base de données, comment on les triture dans tous les sens et qu'est-ce qu'on en fait ressortir, et c'est des documents qu'on peut déposer pour, par exemple, à l'INPI avant de vendre le processus. Les espaces de travail collaboratifs qui garantissent l'unicité de l'information, la traçabilité, le stockage, le partage. Et ça, on peut le faire par projet, par équipe, par thésard, par direction administrative. Et enfin, la sécurité du système d'information. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour mettre en place la PSSI du laboratoire, avec une vocation, c'est d'aller vers l'ISO 27001. Alors, pourquoi je dis aller vers? On commence à avoir des contrats ANR qui nous demandent comment on garantit l'information qui va être dans le contrat, comment on garantit les transactions d'information, etc. Ça, on peut aujourd'hui le garantir par d'autres méthodes qu'une norme ISO. Néanmoins, si un jour on nous demande pour un contrat d'être certifié ISO 27001, moi je veux qu'on soit en ordre de bataille pour se faire certifier très rapidement. Donc ça, l'ISO 27001, ça va nous garantir l'intégrité et la non-divulgation des données. Quelques impératifs. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'aurais peut-être dû écrire en blanc. L'impératif fort, le premier impératif, c'est l'implication sans faille de la direction. Si vous mettez en place un responsable qualité, je vous promets que le garçon, il va être chahuté. C'est quand je dis chahuté, c'est gentil. C'est en général, on se fait tirer dessus à boulet rouge. C'est quel que soit l'endroit où on est. Et si on n'est pas soutenu par la direction, soit on s'en va, soit on s'en va. Ça laisse pas beaucoup d'alternatives. Par contre, quand on est soutenu par le directeur d'unité et par la direction adjointe, par les directeurs adjoints, enfin quand on est soutenu par le bureau de direction du laboratoire, on peut arriver à faire des choses très intéressantes. Vous l'avez vu, c'est un travail de longue haleine. On est parti en 2000, on est en 2010, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une démarche qualité. Le principe du PDCA, Plan Do Check Act, qui est un principe qualité qui a été développé par un certain monsieur Deming, qui dit on est dans une amélioration continue, on planifie, on fait, on vérifie ce qu'on a fait et on réagit. Le acte s'est réagi. Donc on met en place des mesures correctives. C'est la base de la qualité. On a mis en place des outils, ils ne fonctionnent pas bien, on les recasse, on les remet en place autrement, on recommence, on vérifie, on mesure. Alors dans les points que je vous ai pas que j'avais pas noté tout à l'heure, il y a évidemment derrière, sous-jacent à tout ça, des indicateurs, des points de mesure. C'est, je le sais, un des points faibles de la démarche qualité qu'on a mis en place aujourd'hui. Hein. Donc c'est les points sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais les mesures, et je crois qu'il y a un exposé sur les indicateurs en recherche, hein, c'est effectivement excessivement important. Et puis je crois qu'il y a un point qu'il faut pas négliger non plus, c'est se faire accompagner. Parce que c'est l'accompagnement dans les projets, enfin mettre en place une démarche qualité dans une unité de recherche, c'est loin d'être évident. Surtout quand on connaît pas le métier, quand on connaît pas le domaine, quand on découvre tout ça, c'est pas simple à faire tout seul. Donc je crois que se faire accompagner, c'est une bonne méthode, au moins dans un premier temps. Et puis il y a un moment hein, où on sent qu'on peut vivre tout seul. Nous c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 6 laboratoires à la DR11, qui avait à la DR de Grenoble, qui s'étaient lancés dans une démarche qualité. On a tous commencé en même temps en 2000 avec la même méthodologie, avec les mêmes objectifs. Et on s'est tous vus en 2004. On n'a pas travaillé tous ensemble, hein, mais on s'est tous revus en 2004, 2003-2004. Et là, on s'est dit, j'ai lâché le consultant parce que là, j'en ressens plus le besoin. Et on s'est aperçu qu'en fait, les 6 laboratoires, enfin 5 laboratoires plus l'ADR avaient lâché le consultant. Aller plus au prou au même moment parce que effectivement on a tous senti qu'on pouvait voler de nos propres ailes sur ces travaux-là. Je vous propose de passer à une seconde phase, de vous faire une petite démonstration des outils. Alors la base documentaire, les espaces collaboratifs de travail et la description des processus. Donc J'ai commencé peut-être par la base documentaire. Donc voilà, on a une page d'accueil. Vous voyez qu'on a des news en page d'accueil. Donc ça, c'est accessible de tout le monde, de partout, par tout le monde et de partout. Hein. On a un pacte qui veut dire information management du pacte, hein, du laboratoire pacte. Ici, une organisation par grande thématique, administration, où on va retrouver la politique, les orientations, avec les avis, avec des choses, des documents, l'organisation, les comptes rendus de réunion. Si je veux tous les comptes rendus de l'UMR Pacte, ben on les a là. D'accord. On a la même chose en gestion. Si j'ai besoin d'avoir un ordre de mission, ben je viens ici et puis je clique ici. Et là, il peut être 23h dimanche soir chez moi. Je peux le faire sans aucun problème, sans avoir besoin de la secrétaire qui s'occupe de ça. J'ai plus qu'à lui l'envoyer par mail et puis elle me fera mon ordre de mission. J'ai des documents. Alors vous voyez qu'à chaque fois, j'ai procédure, mode opératoire, formulaire. Idem en recherche. Idem en qualité. Alors on est en train de le refondre parce que du coup le volet recherche, on est en train de le basculer sur les outils d'espace collaboratif de travail. Mais pareil, en qualité, ben voilà, on a maîtrise documentaire, on a les documents, la cartographie. Je vous parlais de la route des mines tout à l'heure. Oui, si tu veux. On a les groupes de travail, etc. D'accord? Voilà. Donc un outil Internet, enfin extranet plutôt, qui me permet de me connecter de la planète entière sur les documents de la vie du laboratoire. Voilà, si j'ai besoin par exemple de la route des mines dont je vous parlais tout à l'heure, normalement il va venir. Oups. Voilà, j'ai un outil qui me montre le PDCA. Donc le premier outil, la base documentaire, ça c'est quelque chose qui a mis 5 ou 6 ans à aboutir, c'est loin d'être évident. Je vous ai beaucoup parlé des espaces collaboratifs de travail, voilà à quoi ça ressemble. Un espace collaboratif de travail, c'est un espace sur une recherche, alors en l'occurrence Adaptalit qui est un projet d'adaptation des sociétés littorales au phénomène d'érosion. Hein. Vous voyez, c'est les gens qui ont leur maison en haut de la falaise. Et puis, vous avez la mer qui creuse dessous. Puis, au bout d'un moment, il y a quelques années, ils avaient 150 mètres de terrain devant. Et aujourd'hui, ils ont 5 mètres de terrain en dessous. Quoi. Donc, ces gens-là, il faut les faire bouger. Donc, on travaille là-dessus. Vous avez ici l'ensemble du projet. C'est-à-dire, vous avez tous les partenaires et tous ces partenaires ont accès à ce site en consultation, en lecture seule ou en modification. L'objectif de ces outils, c'est évidemment que tout le monde puisse intervenir dessus. C'est pas l'équipe informatique du laboratoire qui pilote ça, loin de là. C'est vraiment le chercheur, le chef de projet. Une zone d'annonce, si je veux ajouter une nouvelle annonce, je clique là-dessus et j'ai juste à écrire ma nouvelle annonce. D'accord, hein, c'est très simple, hein, je mets son titre, son corps, j'enregistre et c'est fait. L'agenda du projet, j'ai une réunion le 2 février, réunion sur les méthodos. Les documents du projet qui sont là, une liste de contacts qui sont rentrés par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que l'adresse qui est là, c'est la bonne adresse mail. C'est pas celle que la secrétaire aura entrée avec une faute d'orthographe dans le nom. C'est pas le numéro de téléphone, c'est celui sur lequel moi, chercheur, j'ai envie d'être contacté. C'est pas celui qui est sur ma fiche administrative à l'université. C'est mon numéro de portable si j'ai envie que cette recherche-là me contacte sur mon portable. C'est mon numéro de bureau si j'ai pas envie qu'il me contacte sur mon portable. D'accord? Donc là, il faut bien voir ce qui est intéressant, c'est que c'est le chercheur qui est vraiment au cœur du partage de son information. Mais l'information qui l'intéresse sur ce site-là. Quelques liens. Et ça, encore une fois, vous allez voir, je vous en montrerai plusieurs parce que chaque site est fait main dans la main avec le responsable du projet. Il faut 2 heures pour monter un site comme ça à peu près, hein, quand on sait s'en servir. Donc ils ont tous une tête différente, suivant les méthodologies qu'on va employer dans la recherche. On a par réunion tous les comptes rendus de réunion. Vous voyez qu'il y a une réunion le 27-11, si je viens dessus. J'ai les objectifs de la réunion, j'ai l'ordre du jour, j'ai la bibliothèque des documents qui ont été présentés, la liste des participants qui étaient là, avec les gens qui étaient excusés, etc. Quand je clique sur le document, évidemment, je peux interagir avec le document. On peut mettre tout type de documents. On peut mettre des documents audio, des documents vidéo, des documents PowerPoint, du texte. On peut modifier les textes, etc. D'accord. Voilà, un autre site par exemple, ça c'est un espace qui est pour les pour des étudiants de master, qui nous permet de partager de l'information avec eux. Ils travaillent sur un projet de recherche. Vous voyez qu'il y a tous les documents du projet. Donc moi, en tant que directeur de laboratoire, si j'ai envie de voir ce qui se passe sur ce projet-là, j'ai plus qu'à aller voir, quoi. Simplement, hein. J'ai plus qu'à savoir où ils en sont. Dernier outil dont je voulais vous parler, puis on pourra peut-être revenir dessus après, c'est les processus de travail. Processus d'enquête, par exemple, les processus RMI qui sont un process recherche et un process plutôt administratif, on va dire, de méthode. Les processus de travail, ça va permettre de visualiser le descriptif d'une méthode avec un logigramme, d'accord? Avec voilà. Donc, je vais vous prendre un autre exemple qui va peut-être être plus rempli. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui nous permet de faire des enquêtes. On en parlait tout à l'heure. On a une référence. On sait par qui ça a été rédigé, par qui ça a été validé. Il n'y a pas forcément de responsable hiérarchique. Il n'y a pas de responsabilité hiérarchique d'ailleurs. Moi, j'ai des processus qui ont été écrits par moi et qui ont été validés par certains de mes stagiaires parce que c'est moi qui ai voulu écrire le process. Parce que c'est eux qui avaient mis en place l'outil, donc je voulais vérifier que moi j'avais bien compris le fonctionnement de l'outil, et eux m'ont validé ce fonctionnement-là. Il n'y a aucune idée de hiérarchie là-dedans. On a à qui ça s'adresse, les enquêteurs, enquêtés, les attentes, les différents acteurs, leur titre, responsable scientifique, et leur nom éventuellement, les objectifs, les indicateurs de mesure, les objectifs chiffrés, on en parlait tout à l'heure, hein, ça c'est une zone qui est très importante, les objectifs. L'interface avec d'autres process, processus managériaux, processus métier, processus de soutien, la nature de ces interfaces-là, les outils, les méthodes qu'on utilise et les documents. Tout ça correspond derrière à un modèle. Ce modèle-là, si demain je dois faire une déclaration à la CNIL, je n'ai pas besoin d'aller voir la responsable. Le modèle, il existe. J'ai plus qu'à remplir les champs qui sont dedans. Le logigramme qui va bien, et vous voyez que c'est un processus qui est un tout petit peu compliqué. Je vous fais pas le détail, hein. Voilà. Donc là, vous avez la tête du processus. Et ça, c'est rigolo parce que ce process, il a une histoire. Un jour, la responsable des méthodes est venue me voir en disant, écoute, on est souvent en retard sur ce genre de sur ce traitement d'enquête. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce qu'on peut l'analyser ensemble pour voir pourquoi on a toujours 15 jours, 3 semaines par rapport à la deadline qui nous est fixée de retard. Ok? On a commencé, je lui fais, tu connais bien ton processus? Oui, pas de souci. On commence à le griffonner sur un bout de papier. Quand on est arrivé au A3, on a dit, attends, on va se poser sur autre chose parce que là, on va pas y arriver. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait 30 ou 35 étapes, je sais plus, quelque chose comme ça. Là, vous voyez qu'il y a quelques étapes, hein. Il y a une trentaine d'étapes, voilà. Et quand on a fait le rétro-planning qui est là, on s'est aperçu que rien que la déclaration à la CNIL, ça prenait un mois et demi. Le retour de la CNIL. Pas vous qui mettez un mois et demi à faire le document, c'est eux qui mettent un mois et demi à répondre. Donc forcément, quand on dit aux chercheurs, il te faut un mois et demi pour avoir l'enquête, ça marche pas. Donc voilà, ça permet après d'aller discuter en projet, quand on met en place le planning de la recherche, de dire, attends, moi j'ai ici ça c'est incompressible. Et c'est pas du vent, c'est pas parce que c'est une mauvaise volonté de la personne qui fait l'enquête, c'est parce que matériellement on peut pas compresser ces délais. Donc là, c'est écrit. C'est écrit, et du coup, le chercheur, il peut voir que le seul moyen de raccourcir ce délai-là, c'est de raccourcir le temps de création du questionnaire. Ça, c'est son job à lui. Donc, ça renvoie aussi les gens à leurs responsabilités, c'est pas inintéressant. Donc, dysfonctionnement, ça permet de voir où il y a des soucis. Analyse de risque, hein, je vous l'ai dit. Plan d'amélioration. Et après, pareil, les fiches actions. Donc, tout est écrit. Quand on a quelqu'un qui arrive, qui est nouveau dans le service, qui arrive, il a plus qu'à se poser là-dessus, à lire les fiches. Et il peut être opérationnel très rapidement. J'entends la question qui est de dire, vous n'avez pas l'impression que ça coupe un peu les relations humaines? Non, au contraire. Hein. C'est pas parce que c'est écrit qu'il faut plus qu'on parle, bien évidemment. On n'est pas non plus dans cette idée-là. Mais n'empêche que ce process-là, vous pouvez le déposer quelque part et la personne qui doit faire le travail sait à quoi s'en tenir. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que je crois que je suis pratiquement dépassé mon temps de parole, c'est ça? Merci pour votre attention, puis je ne sais pas si vous avez des questions ou on peut peut-être lancer un petit débat.
Pourquoi Pacte s'est lancé dans cette démarche-là? Est-ce que c'était le CNRS qui vous a incité parce qu'il y avait effectivement un enjeu de recomposition organisationnelle très important et le CNRS a été l'acteur déterminant dans ce processus ou bien il y avait une problématique de qualité qui se développait soit au CERAT, soit à l'IEP de Grenoble, je ne sais pas, ou dans d'autres structures.
Alors non, il n'y avait pas forcément volonté dans les différentes unités de fusion à se lancer dans la démarche qualité. Et oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que fusionner les 4 premiers labos. Alors Pacte a été la première fusion du CNRS. Ça a été le premier laboratoire à fusionner au niveau du CNRS. Donc le CNRS a toujours eu un œil un peu critique et bienveillant, on va dire, hein, à la fois critique et bienveillant sur le fonctionnement de Pacte. On a essuyé en termes de pilotage beaucoup, beaucoup, beaucoup de plâtre, des plâtres très frais. Et effectivement, le CNRS a proposé à nous, comme à plusieurs autres labos, puisqu'on était 5 labos plus la délégation, en même temps de se lancer dans cette démarche qualité-là en 2000, au moment de la fusion. Parce qu'effectivement, fusion de labos dit problématique de pilotage. Et donc la direction de l'unité à ce moment-là, oui, s'est lancée dans cette démarche qualité. Et puis bah ils ont gardé l'idée jusqu'au bout. Puis on commence à avoir encore une fois quelque chose qui ressemble à une démarche qualité, quoi.
Donc si j'ai bien compris, ce sont les chercheurs qui remplissent l'espace collaboratif de recherche. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré des réticences, parce qu'effectivement, ça prend du temps. Est-ce que vous avez mis en place un modérateur? Et dernière question, est-ce que ça fonctionne, disons, globalement au niveau de l'ensemble de l'UMR, ou est-ce que c'est par petite équipe que fonctionne cet espace?
Des réticences, j'en ai rencontré beaucoup. Quand je suis arrivé en fait au laboratoire, cet outil je le maîtrisais depuis 6 ou 7 ans. Donc vu que je connais très très bien cet outil-là, c'est assez facile, vous l'avez vu, de faire une démonstration convaincante. Donc après c'est comment on met ça en place par rapport aux équipes. Aujourd'hui, on doit avoir 48 espaces de travail et 600 personnes connectées sur le serveur. Donc c'est le double de. Vous remarquerez que c'est le double de la population du laboratoire, hein, puisqu'on est 300, on est 300 permanents dans le laboratoire, il y a 600 personnes connectées. Les 300 autres personnes, c'est des gens qui sont dans les universités du monde entier, Chili, Canada, Chine, Japon, Émirats arabes, j'en passe, c'est des meilleurs. Quand j'ai mis ça en place au départ, c'était sur une base de volontariat. J'ai eu la chance en fait que le premier espace qu'on mette en place soit pour le directeur adjoint du laboratoire et le directeur de l'IEP, puisque c'est une machine qui a été achetée pour un des clusters d'Olivier Hill. Donc on a mis ça en place pour le directeur de l'IEP de Grenoble et pour le directeur adjoint de Pacte. Forcément, quand je disais tout à l'heure une implication forte de la direction, ça aide. C'est vrai que vu que le retour a été très positif pour ces deux expériences-là, le bouche à oreille va très très vite là-dessus. C'est un chercheur qui commence à utiliser ça par curiosité. L'équipe qui suit derrière, parce que le pilote de la recherche se lance là-dedans. Le chercheur, rapidement, il va s'apercevoir que c'est quand même très confortable quand il a besoin d'un numéro de téléphone, d'avoir juste une adresse, enfin d'aller juste se connecter sur son raccourci Internet pour avoir accès au numéro de téléphone de son collègue, pour avoir accès au dernier rapport de la réunion à laquelle il n'a pas pu assister. Et petit à petit, on en a monté un, on en a monté 5, on en a monté 10, 15. Là, je vous dis, on doit être à 47 ou 48 espaces, je vais arrêter de les compter bientôt.
Et concrètement, vous avez dit tout à l'heure, il fallait 2 heures pour monter un site, c'est bien ça? Donc concrètement, on s'appuie sur quelque chose qui existe déjà et on le remplit, on se l'adapte à son propre labo. Donc c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que...
Alors concrètement, l'outil, c'est un outil qui s'appelle SharePoint Portal Server, qui est un outil Microsoft, hein, que vous pouvez acheter. Il faut compter entre 7 500 et 10 000 euros, machine comprise, pour mettre en place cet outil-là. Sur un laboratoire comme Compact est pas énorme quand on regarde bien. Pour un institut ou pour une université, c'est des coûts qui sont, je dirais pas négligeables, mais pas loin, quoi. Donc une fois qu'on a ça, après l'outil, je sais pas si vous avez remarqué, ça fonctionne par bloc. Ici, j'ai un bloc outil, j'ai un bloc terrain, j'ai un bloc document de travail, j'ai un bloc annonce. Donc ces blocs-là, on peut les bouger, on peut les modifier, on peut les créer de façon extrêmement simple. Je vais sur créer ici et j'ai juste à créer un bloc bibliothèque de documents. Voilà, je lui donne son nom, j'ai juste à faire créer et à le prendre et à l'emmener, à le déplacer sur ma feuille et il est positionné. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, on va dire, en termes d'informatique. Il n'y a pas de code à faire, il n'y a pas de développement, il n'y a pas besoin d'un informaticien à part entière, si ce n'est pour le pilotage du serveur, mais je veux dire, c'est un serveur comme un autre. Donc du coup, vous impactez pas le boulot des services informatiques dans vos laboratoires qui sont déjà plus que chargés. Et en plus, le chef de projet ou quelqu'un de l'équipe qui est un petit peu intéressé par ce qu'il peut se faire en termes d'informatique, souvent c'est des thésards d'ailleurs qui sont sur le projet, conforme à l'administration du site. Moi, je fais le site, il me faut 2 heures, 2 heures et demie pour faire un site. Et une fois qu'il est fait, j'ai passé 2 heures avec la personne qui va le gérer. J'en entends plus parler. S'ils ont besoin de se créer une nouvelle bibliothèque, ils se font leur bibliothèque comme des grands, quoi.
En termes de ressources disponibles pour l'ensemble du laboratoire, donc la cellule qualité ou ce service qualité, c'est une seule personne aujourd'hui? Parce que, par exemple, l'analyse des processus, c'est un accompagnement qui est quand même plus lourd et c'est pas une demi-heure passée ensemble.
Alors, jusqu'au mois de septembre, c'était même pas une personne, puisque moi, j'étais à la fois RSI et responsable qualité. Il s'avère qu'il y a une restructuration du service informatique et entre l'IEP et le laboratoire Pacte. Et du coup, moi, je me dégage complètement sur la qualité depuis le 1er septembre. Donc qualité et pilotage de projet. Depuis le 1er septembre, c'est un temps plein. Ce qui est déjà assez rare dans les unités CNRS, hein, d'avoir... on ne doit pas être nombreux à être responsable qualité officiel à temps plein sur les unités de recherche.
Et sur les différents sites, il y a des correspondants ou comment c'est
organisé? Non, c'est moi qui tourne sur les sites. Mais en fait, enfin, je tourne sur les sites, mais étant donné qu'on travaille par projet de recherche transverse, hormis le fait que effectivement on peut se rencontrer où on veut, on essaye justement à PAC de pas avoir cette logique de site, si vous voulez. Alors, c'est pas évident, mais on essaye d'avoir vraiment une logique transverse, quoi. En tout cas, pour l'équipe de direction et l'équipe de pilotage de projet, on est vraiment en transverse.